Savez ce que c'est la croix bleue? Mouvement pour lutter contre l'alcoolisme. Alors, vu l'heure, on a 5-10 minutes, je pense. C'est juste? Ou bien vous avez plus de temps. J'aimerais vous emmener quelques milliers d'années en arrière, vers l'histoire des patriarches. Et on va parler d'Isaac ce matin, dans Genèse 26. Isaac qui est dans le pays de Guérar. Je lis à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. » Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, ils disaient « C'est ma sœur ». Il avait peur en effet qu'il ne le tue s'il disait « c'est ma femme » parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimélec, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit « c'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « c'est ma sœur » ?» Isaac lui répondit « j'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle ». Abimélec dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimélec fit ce décret pour tout le peuple, « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père Abraham à l'époque, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée du Guérar où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusé à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblé après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela le puits Essek parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car dit-il, « L'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. » Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur, car je suis avec toi. » Je te bénirai, je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. C'est la mode de creuser les puits partout. Verset 26. Abimélec vint de Guérar le trouver avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous me trouver puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. Isaac leur prépara un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir et ils se quittèrent dans la paix. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau ». Il appela le puits Shiba, c'est ce qui veut dire serment. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Voilà notre passage et je voulais le lire complètement, même si je ne vais pas m'arrêter sur l'ensemble des points. C'est un passage assez riche qui s'ouvre, qui nous fait voyager avec Isaac et qui s'ouvre sur une situation compliquée. Une situation compliquée pour toute la population qui habite dans la zone. Une situation de famine, une situation de crise. Et Isaac et sa famille n'en sont pas épargnés, au même titre que toute la population locale. Alors Isaac, il est grand, il est adulte, il a eu des enfants déjà, il a des responsabilités, il a une famille avec Rebecca, ses deux enfants Ésaü et Jacob. Ils sont déjà d'un certain âge. L'épisode de la vente du droit d'aînesse est juste avant ce passage. Et il a aussi, sans doute, des troupeaux et des serviteurs. Et tout à coup, tout s'écroule. Abraham, son père, lui avait transmis, c'est au chapitre 25, verset 5, Abraham lui a tout légué, en fait. Et donc, d'une situation d'opulence, il devient en quelque sorte, au même titre que tout un chacun, victime de cette famine. On parlerait aujourd'hui de réfugiés climatiques. Et donc, devant cette situation, et en bon père de famille responsable, il veut aller en Égypte. Il veut aller en Égypte où, c'est connu, les terres sont plus fertiles le long du Nil et où apparemment la famine ne sévit pas. Vous connaissez un peu l'Ancien Testament, le peuple est allé à un moment en Égypte, mais ça sera deux générations plus tard avec Joseph, ce qui donnera lieu à l'esclavage des Israélites. Mais les choses ne se passent pas comme prévu dans son plan. Lorsqu'il passe, donc pour aller en Égypte, il passe par le pays de Guérar, le pays des Philistins, et Dieu lui apparaît. Il lui rappelle ses promesses et il lui dit de ne pas aller en Égypte. Pas la peine d'aller plus loin. Dieu veut le bénir à l'endroit où il est. Et apparemment, selon ce que j'ai lu, dans les passages précédents, c'est la première fois que Dieu apparaît personnellement à Isaac. Alors bien sûr, c'est quelque chose de famille, il est apparu de nombreuses fois à Abraham, avec qui il parlait, comme nous dit la Bible, comme à un ami. Mais c'est bien la première fois qu'il s'adresse à Isaac personnellement et directement. Qu'a dû en penser son entourage? Qu'a dû en penser son épouse Rebecca? La Bible est muette, silencieuse sur ce point. Et on sait que toutes les femmes aiment le sentiment de sécurité, par exemple. Ils savaient qu'en Égypte, la sécurité serait assurée. Et pourtant, ils s'arrêtent dans ce pays de Guérar, qui est aussi victime de la famine. Pas mal de monde a dû penser qu'il n'était justement pas responsable en restant dans un pays marqué par cette famine. L'Égypte leur tend les bras, mais Isaac préfère faire confiance à celui qui lui est apparu pour la première fois. Qu'est-ce que Dieu lui a promis dans ce contexte de famine, quand même? Dieu lui promet des terres, il lui promet une grande descendance. Il confirme en fait les promesses qu'il avait faites à Abraham, son père. Alors la Bible n'épilogue pas sur les réflexions d'Isaac. Simplement, devant ce Dieu qui lui apparaît personnellement et qui lui rappelle les promesses qu'il a pour sa famille dans son ensemble, Isaac agit avec confiance en restant à Guérar. Fin de la tentation d'aller ailleurs, fin de ses raisonnements purement humains, il décide de faire simplement confiance à Dieu. Et la Bible est lapidaire. Isaac resta donc à Guérar. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Conforté par cette promesse de Dieu, il commence à semer. En pleine famine, il décide de semer. Ça, c'est avoir la foi. Et lorsqu'on sème à un endroit, donc semer les graines, Lorsqu'on sème à un endroit, c'est qu'on a confiance de rester au moins jusqu'à la récolte, n'est-ce pas? Ma femme, sans savoir ce dont j'allais parler ce matin, parce que j'aime pas lui parler de ce que je vais parler le matin, elle m'a dit exactement ça ce matin en parlant d'autre chose. On sème à un endroit, on a confiance de rester au moins jusqu'à la récolte. On ne sait pas exactement ce qu'il a semé, mais en tout cas, le temps s'est prolongé, ce que nous dit la Bible. Et la récolte arrive à un moment donné. Et cette récolte, elle est juste exceptionnelle. Isaac récolte au centuple par rapport à son semis. Je ne sais pas si vous faites un peu de jardinage, mais récolter au centuple par rapport au nombre de graines qu'on a mis, c'est du rendement. Hein. J'étais impliqué dans le passé dans des projets au Sahel, notamment des projets d'agroécologie. Et on savait qu'en essayant de restaurer le sol, en lui redonnant de la vie, en apportant du compost, des fertilisants, des arbres fertilitaires, si on faisait de l'agroforesterie, on pouvait espérer multiplier par 3 les rendements. Ah, c'est déjà extraordinaire. Alors ici, on ne sait pas ce que Dieu a fait au sol, à sa biologie, comment il a boosté les vers de terre, mais le moins ce qu'on puisse dire, c'est que ça a fonctionné et que ça a boosté la récolte. Dieu est le Dieu des miracles, et on a tendance à l'oublier parfois pour ne pas être déçu. On s'arrête à nos raisonnements humains, on s'arrête aux risques que nos yeux ont identifiés avec plein de sagesse, mais on oublie que la terre entière appartient à notre Seigneur et qu'il est capable, s'il le juge bon, de même modifier les lois de la physique pour nous faire entrer dans sa promesse. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans une situation de famine. Peut-être pas une famine physique, même si pas mal de monde autour de nous a plus en plus de mal à se nourrir tous les jours. Mais la famine, elle peut être de différents ordres. Elle peut être spirituelle. Elle peut concerner vos relations avec vos proches. Elle peut être en lien avec le travail. Elle peut être en lien avec le lieu où vous habitez. On a eu récemment le témoignage de Cindy qui nous disait « Mais il faut que je sorte de cet endroit où j'habite. Il commence à avoir des coups de feu autour de moi. » Alors parfois, on est tenté d'aller ailleurs, de changer d'air. On a besoin de prendre l'air même. Et c'est légitime. Parfois, on a envie de tout envoyer balader. Notre situation de famine, elle doit changer. On ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas tenable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut persévérer, même si on est dans le dur, comme dans une montée d'un col de quatrième catégorie? Ou est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce que abandonner est même une option? Comment agir avec foi en s'appuyant sur la parole de Dieu, peut-être à l'encontre de ce que les gens peuvent penser, mais sans devenir présomptueux? Je vous rassure, je n'ai pas la réponse. Comment agir avec foi en s'appuyant sur la parole de Dieu, peut-être à l'encontre de ce que les gens peuvent penser, mais sans devenir présomptueux? Parce que tout peut laisser penser qu'Isaac était dans cette situation. On a pu lui dire « Mais t'es complètement fou, allons en Égypte. » Alors, c'est pas évident, mais Isaac, il avait un avantage certain. Dieu lui est apparu. Facile. Et devant cela, il n'avait plus rien à argumenter. Et il a pris sa décision de rester au pays de Guérar après cette entrevue divine où les promesses lui sont réaffirmées. Et malgré l'apparence d'une décision folle, peut-être contestée en interne parmi ses proches, rester dans le pays s'avère un pari gagnant, si on peut dire. Récolte fois 100, vous imaginez? Récolte fois 100. On est loin de nos placements sécurisés sur un livret A, même à 3%. Est-ce qu'on croit encore dans notre marche avec Dieu? Moi, je crois que j'avais beaucoup plus la foi quand j'étais jeune, en fait. Je vous le confesse ce matin. Je croyais beaucoup plus que Dieu était capable de choses extraordinaires. Est-ce qu'on croit aujourd'hui dans ce qu'on vit actuellement, dans nos situations, dans vos situations que je ne connais pas? Est-ce qu'on croit que Dieu peut faire d'une situation de famine une situation d'abondance? entendu un amen chuchoter. C'est le début de la foi. C'est pas évident de le croire. Est-ce qu'on croit que quand Dieu nous fait une promesse, nous donne une promesse, nous donne une conviction de cœur, et évidemment pas en contradiction avec sa parole, est-ce qu'on croit qu'il est capable de mettre tout en place pour qu'elle se matérialise, malgré les apparences qui semblent dire le contraire ? Évidemment, il ne s'agit pas de se fourvoyer, d'être présomptueux et d'aller droit dans le mur parce qu'on pense avoir entendu une promesse de Dieu et qu'en fait, il s'agit de nos propres désirs. Et c'est là toute la difficulté. Isaac, il avait vécu dans un environnement, on va dire, un environnement de la promesse de Dieu. Imaginez, son père parlait à Dieu comme un vis-à-vis, comme un ami. Pas rien quand même. Isaac avait même fait partie du test de la foi de son père, quelques chapitres auparavant, lorsque Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac sur le mont Morija pour tester sa foi, pour finalement le remplacer in extremis par un animal. Il était à bonne école. Et Isaac avait touché du doigt la réalité de ce Dieu qui pourvoit. C'est la signification du mont Morija. Et que nous dit le Nouveau Testament sur cette famille quand même qui est marquée par la foi, une marque positive? Le livre des Hébreux, en chapitre 11, verset 1, nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 8, un peu plus loin, il prend l'exemple de différentes personnes dans l'Ancien Testament. Voilà ce qu'il dit. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Isaac met donc aussi lui-même en marche cette foi transmise par son père, puisqu'il en est co-héritier, comme nous dit Hébreux. Et quel est le résultat ? Le fait de rester dans ce pays que Dieu lui indique a un impact incroyable sur sa vie. Souvenez-vous toujours qu'il avait hérité d'Abraham des troupeaux et autres. Et le passage nous dit qu'il devient riche, très riche même. La Bible insiste trois fois en utilisant le terme de riche, au point de susciter des jalousies chez les Philistins. Alors, lorsque Dieu bénit Isaac, ça se traduit par des biens matériels. Alors, juste pour être clair, les biens matériels ne sont pas forcément le signe de bénédiction de Dieu. Il y a des dérives dans ce sens-là. Mais dans ce contexte du développement de la promesse faite à Abraham, ça l'était. On remarquerait, c'est toujours bétail et serviteurs. Voilà. La puissance était comptée en bétail, pas en bitcoin. En tous les cas, cette situation, on peut dire, ok, voilà, Dieu active la promesse et Isaac est rentré dedans, merveilleux. Mais cette situation le conduit finalement à une seconde crise. Une crise, cette fois, qui est relationnelle avec les habitants de Guérar. Et Isaac doit partir, il doit prendre le large. Il doit prendre ses clics et ses claques avec ses troupeaux et ses serviteurs et servantes et aller dans une vallée qui est un peu plus loin que la ville de Guérar. Et de façon intéressante, c'est dans cette même vallée qu'Abraham avait creusé des puits à l'époque. Des puits qui ont été remblayés par des opposants jaloux de son succès et du développement de ses troupeaux. Comme j'ai dit juste avant, Genèse 25, verset 5, nous dit qu'Abraham donna tout ce qu'il avait à Isaac. Alors, il a probablement effectivement hérité des biens matériels, des troupeaux, mais la transmission, elle n'était pas seulement matérielle, c'était aussi la transmission de la promesse. la transmission de la vision des étoiles et des grains de sable innombrables comme la descendance. Et comme un symbole, Isaac remet en fonctionnement les puits creusés par son père. Il réactive en quelque sorte la promesse, car sans l'eau, la vie n'est pas possible dans cette vallée. L'eau, c'est la vie. Et la promesse, évidemment, elle ne peut pas s'accomplir si tout le monde meurt de soif. On est bien d'accord. Et en plus des anciennes sources, de nouveaux puits sont creusés et de l'eau vive est découverte. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement de l'eau vive. Ce n'est pas les sources ferrugineuses. Hein. Moi, je vois ça comme une eau qui jaillit comme ça. Un peu comme dans le désert avec Moïse, un peu plus tard. L'eau vive est découverte. Vous imaginez un peu, dans une vallée désertique où l'eau est un enjeu important qui détermine finalement la survie du bétail et des hommes, l'eau jaillit. Et l'eau, on le sait aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans le monde, elle peut être source de conflits ou de paix. On sait la partager. Et dans notre cas, les bergers de la zone lui cherchent querelle et le conflit est bien présent. Mais en fait, pour qu'il y ait conflit, il faut quoi? Il faut deux parties opposées. Or, j'aime assez l'attitude d'Isaac. Isaac ne cherche pas à faire valoir son bon droit. Après tout, c'est son père qui avait creusé ses puits et ça serait quand même légitime qu'il puisse en bénéficier. Mais non, il ne cherche pas le conflit. Il va simplement plus loin. Il va creuser un autre point d'eau. On lui cherche encore querelle, il va plus loin. Quel enseignement? Quelle maturité? Il va simplement plus loin, certain que Dieu tient ses promesses et met tout en place sur cette base. Quand bien même les apparences ne vont pas dans la bonne direction d'un point de vue humain. Et son succès pour l'eau, parce que chaque fois qu'il creuse, il semble qu'il trouve de l'eau, c'est quand même extraordinaire, fait écho quelque part au succès des semailles, des semis et à la récolte surabondante. Mais la vie paisible, elle n'est pas immédiate. Elle est seulement possible au troisième point d'eau. Ça, pour moi, c'est le signe que le succès est parsemé d'échecs et qu'il y a une clé, c'est la persévérance d'Isaac. Encore une fois, sans être présomptueux, mais en s'appuyant sur les promesses de Dieu pour lui et sa famille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ceux qui connaissent un peu certains pays du Sud, que ce soit en Afrique ou en Asie, dans des zones très rurales, creuser un puits, c'est pas rien. Hein. Là, on a l'impression qu'il enchaîne les creusages de puits, mais il n'avait pas la foreuse. Je me souviens quand je travaillais aussi dans ce secteur-là, on avait un partenariat avec la population locale et on leur demandait, ok, l'équipe des puisatiers vienne construire le puits, seulement à partir du moment où la population du village, elle a creusé jusqu'à la première nappe d'eau. Et la première nappe, elle était des fois à 15 mètres, à 20 mètres, des fois elle était à 30 mètres. Donc en fait, ça prenait une mobilisation des jeunes et des hommes du village surtout, et les femmes pour faire les allers-retours, pour excaver les gravats, peut-être un mois ou deux mois. Vous imaginez, sans trop d'outillage à l'époque, ce que ça a pu prendre comme effort. Vous faites tout cet effort, vous faites tout ce cheminement, vous creusez, vous trouvez l'eau, et on vient vous chercher querelle. Peut-être à Isaac a proposé de partager l'eau, mais on lui a cherché querelle et il a simplement dit « Ok, je bouge. » Étonnant. Parce que ça vous inspire, mais... Je trouve ça très étonnant, cette attitude d'Isaac. Au troisième point d'eau, finalement, Isaac et sa famille sont mis au large par Dieu. Après plusieurs échecs, ils sont mis au large. Dans quel domaine de notre vie est-ce qu'on a besoin d'être mis au large et de prospérer? Parfois, on est dans le dur, et ça ne sert à rien de le nier. On a juste besoin de passer à autre chose, on a besoin de décompresser, on a besoin de sortir d'une situation. Dans quels aspects de notre vie est-ce qu'on a besoin d'espace? De quelle situation est-ce que vous avez besoin d'être dégagé ce matin? N'ayons pas peur d'activer notre foi et de le demander à Dieu. Parce qu'il est capable, l'histoire nous montre, et le message biblique nous le montre dans son ensemble, qu'en dépit des apparences, Dieu est capable de changer les choses. J'étais récemment au Bangladesh pour mon travail. Je travaille pour une ONG. Et je discutais avec quelqu'un du personnel médical d'un hôpital qui est en fait une jeune femme qui est orpheline et qui a été apportée dans un orphelinat toute petite à quelques mois. Elle m'a raconté son histoire et c'était assez poignant. C'est la première fois que je parlais autant avec quelqu'un dans le cadre d'un projet. Et elle était orpheline, elle a été recueillie. En fait, un médecin étranger a persuadé sa maman de ne pas avorter. Et elle est née, finalement. Et après être née, sa maman l'a abandonnée là. Et elle a grandi dans cet orphelinat, entourée de bons soins, je pense. Après, cette organisation a développé d'autres structures, comme des écoles, un collège, un lycée. Elle a passé tous ces échelons. Et elle a fini par faire une formation d'infirmière. Et maintenant, un master en santé publique. Waouh! J'étais impressionné par son histoire. Parce que malgré un démarrage un peu difficile, Dieu a pris soin d'elle dans cette structure, jusque là où elle en est maintenant. On a beaucoup discuté parce qu'elle elle a certaines blessures émotionnelles et relationnelles. Et je me suis retrouvé un peu, sans le vouloir, en train de... simplement en train de faire de la relation d'aide, mais c'est pas vraiment ça parce que je suis pas formé là-dessus. Mais voilà, en train de l'écouter surtout et de l'encourager parce qu'elle était en arrivée à un point il y a quelques mois d'avoir des pensées suicidaires et elle s'est fait entourer. Elle a besoin d'un voilà. Il y a eu le Covid, il y a eu voilà, beaucoup de praticiens aussi ont souffert au niveau santé mentale et malgré sa foi, c'était difficile pour elle. Et elle m'a dit un moment, pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que l'expression qu'elle a employée, elle avait besoin de sortir de ce contexte dans lequel elle avait toujours vécu, et elle avait 30 ans maintenant, avec des aspects relationnels pas forcément évidents. Elle m'a dit une chose, elle m'a dit « I need space », j'ai besoin d'espace. Et c'est tout à fait ce sentiment-là que je peux comprendre dans ce passage de la Bible, où Isaac avait besoin d'être mis au large, avait besoin d'espace, avait besoin de respirer tout simplement. Et parfois on est dans cette situation dans nos vies. Alors voilà, on va trouver des solutions pour elle, qu'elle puisse se ressourcer. J'ai fait court, hein? Conclusion. Voilà, dans cette histoire, plusieurs. Alors, j'ai pas parlé de l'histoire de faire passer sa femme pour sa sœur. C'est ça, quand on a une femme trop jolie, c'est compliqué. Voilà, je n'avais pas trop quoi dire là-dessus. Mais une chose est intéressante. Non, je parle d'Isaac et Rebecca. Il y a plusieurs en fait parallèles avec l'histoire d'Abraham, comme un passage de témoin. Abraham, quelques chapitres auparavant, était aussi allé voir Abimélec. On ne sait pas si c'est le même Abimélec ou si c'était un peu un titre philistin de roi, comme Pharaon. Mais il était aussi passé voir Abimélec et il avait aussi caché l'identité de sa femme Sarah, parce qu'elle était trop jolie. Et ça avait failli mal tourner, je vous invite à relire le passage. Abimélec l'avait kidnappée en gros et voulait se marier avec elle, pensant que c'était la sœur d'Abraham. Et c'est marrant, Isaac refait exactement la même chose. En fait, je sais pas. Un premier parallèle en tout cas. Un second parallèle, c'est que lui aussi avait fait la paix et un serment, un traité avec ce roi des Philistins. Et c'est la fin de notre passage sur laquelle je ne me suis pas attardé, mais où finalement les ennemis reconnaissent à un moment donné la grandeur de Dieu et le fait que Isaac est vraiment dans cette promesse, et plutôt que de s'y opposer, veulent maintenant faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Et le plus important à retenir, c'est qu'il entre dans la promesse de laisser Dieu rendre sa descendance plus nombreuse que les étoiles. Quelle promesse! Et il en devient, comme nous dit le passage d'Hébreu, co-héritier avec son père Abraham et plus tard avec Jacob. Le cheminement de la foi, rappelons-nous, est parsemé d'embûches, mais c'est le prix pour participer à cette vie florissante à laquelle Dieu nous appelle tous. Amen. J'ai prié. Seigneur, je te prie que ta parole puisse s'ancrer dans nos cœurs, que tu puisses nous guider vers les promesses que tu as pour nous. Parfois, on a reçu des promesses, il y a déjà toutes les promesses que ta parole contient et dont on peut se saisir, et que tu as accompli en fait, tu as accompli la plus grande des promesses, c'est de nous restaurer, de nous réconcilier avec ton Père. Et voilà, il y a aussi peut-être des promesses spécifiques que tu nous as faites dans notre passé, qu'on a enfouies, qu'on a oubliées pour se protéger. Et peut-être tu veux réactiver certaines choses en nous, peut-être tu veux réactiver certains ministères, certains appels, peut-être tu veux simplement renforcer ta marche avec nous, et c'est ça le plus important. Et c'est ce que je veux prier pour chacun de mes frères et sœurs ce matin, que tu puisses toujours, pour pas qu'on confonde foi et nos propres désirs, pour pas qu'on soit présomptueux et qu'on passe à côté de ton plan, que tu puisses nous guider, sachant que toute chose concourt à ceux qui mettent leur confiance en toi. Et c'est ce que je te prie pour mes frères et sœurs ce matin, que tu puisses leur parler, parler à leur cœur, parler dans leur situation, peut-être des situations de famine, spirituelles ou autres, relationnelles. Que tu puisses parler, que tu puisses restaurer, que tu puisses rebâtir aussi. Que tu puisses faire jaillir des nouvelles sources d'eau et qu'on puisse venir y boire parce que c'est toi qui as la vie. Toi qui donnes l'eau et après ça, on n'a plus jamais soif. Ouais, fais jaillir en nous ces sources-là. Amen.